L'œuf et la poule, Olivier Horry.
Bienvenue dans l'œuf et la poule, la conversation philosophique mensuelle sur RCF avec Odile Autré. Bonjour Odile.
Bonjour Olivier.
Et ce mois-ci, nous avons décidé de nous poser des questions assez concrètes, à savoir la question du droit naturel. Entendons-nous bien, la question de savoir si la nature aurait des droits ou alors si ce sont seulement les humains qui auraient à son égard quelques devoirs.
Et oui, et ça nous montre que l'homme prendrait une forme d'émancipation par rapport à la nature. Tout d'un coup, il se placerait au-dessus, alors qu'en principe, il en est issu, semble-t-il. Et donc, depuis sa nouvelle position, il voudrait voir s'il peut accorder des droits à la nature et dans quelles limites et pourquoi faire.
Oui, on a cette impression-là. Le droit, les valeurs, le bien, le mal sont des choses qui ont une valeur justement pour des consciences réflexives, des consciences humaines. Les choses en elles-mêmes sont là un peu sans raison. La nature est là et nous-mêmes d'ailleurs sommes là sans raison. Nous sommes le fruit d'un enchaînement de causes et d'effets assez innocents, assez brutal, factuel, quoi. Mais comme nous avons conscience de nos existences, évidemment, nous accordons a priori une certaine valeur à notre existence dont nous avons conscience. Nous estimons que tout ce qui contribue de près ou de loin à la prolongation de notre existence, à son augmentation, a de la valeur, naturellement. Et de ce point de vue-là, donc, le bien, c'est notre propre bonheur, notre propre satisfaction. Et puis, par analogie, nous reconnaissons plus ou moins facilement que les autres ont des droits qui ressemblent aux nôtres, évidemment. Et puis, évidemment, il y a notre environnement qui, lui, ne paraît pas conscient et par rapport auquel nous avons effectivement ce que vous dites, une position de surplomb et une position qui nous inviterait plutôt dans un premier temps à nous en servir. Hein, on ne devrait pas se contenter de se servir des autres. On devrait aussi toujours les considérer comme des fins. Hein, mais par contre, notre environnement serait là uniquement pour nous servir jusqu'à ce que nous l'exploitions d'une certaine manière. Et de cette position de surplomb, effectivement, comme vous le dites, se poserait la question de savoir, mais finalement, cet environnement, les rivières, les montagnes, les animaux, n'auraient-ils pas, comme nous, des droits ?
Oui, mais ils auraient des droits. Alors déjà, pour les formuler, les définir, et ça ne peut passer que par l'homme. Donc de toute façon, il faut un intermédiaire, il faut quelqu'un qui prenne la position de la nature. Alors ça pose déjà la question du niveau de connaissance qu'il faudrait de la nature, suivant de quel endroit il s'agit. Mais c'est surtout, on ne peut pas faire abstraction du fait que, comme c'est un humain, même ses intentions peuvent être perverties ou utilisées d'une manière qui retombe sur le même résultat.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous faut d'une certaine manière personnifier la nature. Finalement, la nature aurait des droits si elle était comme nous, le produit d'un créateur conscient ayant une intention. À partir du moment où, dans un premier temps, on essaye de se débrouiller pour trouver des droits aux êtres naturels indépendamment d'un projet divin ou spirituel quelconque, il faut effectivement avoir recours à cette espèce d'artifice de trouver un représentant de la nature. Et ce représentant de la nature, évidemment, le risque, c'est qu'il ait lui-même un caractère un petit peu arbitraire. C'est ce que vous soulignez. On sent bien qu'il est difficile de trouver un humain qui n'aurait aucun intérêt à une quelconque exploitation de la nature, à un quelconque emploi des matières premières, des énergies, etc. Et il lui faudrait une sorte d'innocence et une stature spirituelle très particulière pour se dire effectivement le représentant de ces êtres muets que sont les éléments de notre environnement.
Mais quelle différence on aurait avec... On aurait, oui, qu'est-ce qui se produirait par rapport au fait que des fois les associations tiennent ce rôle, revendiquent pour la nature qui ne peut pas s'exprimer, pour sauver un lieu, pour sauver une espèce, pour la protéger. Donc qu'est-ce que ça pourrait ajouter définir davantage des droits, ça pourrait nous amener à une forme de réflexion. Symboliquement, ça pourrait être important de faire représenter la nature ou un espace, un lac ou une rivière par quelqu'un. Ça pourrait avoir un effet promoteur, mais par contre, dans le résultat technique, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes impasses ?
Ce qui frappe, quand on essaye de prendre le point de vue que nous essayons de prendre, nous, ici, philosophique, quand on entend le discours des écologistes un peu intégraux, pour ne pas dire intégristes, quand on entend le discours de certaines associations, effectivement, on peut être frappé par leur côté un peu dogmatique. Et on se demande d'où ils parlent pour pouvoir effectivement parler du droit d'une rivière ou d'une colline qu'on veut traverser par une route. D'où parlent ces gens et effectivement, on peut toujours les suspecter de défendre d'autres intérêts qui sont pas tellement plus légitimes que les intérêts du bâtisseur, de l'énergéticien qui veut exploiter, etc. Bon. La constitution d'une sorte de cour de justice de la nature permettrait de donner l'existence à une sorte de tiers quelqu'un qui serait un petit peu hors du conflit des intérêts et qui, un petit peu comme pour une cour de justice internationale, qui se prétend extraite des intérêts des grands blocs géopolitiques. On peut imaginer donc une cour de justice écologique qui arriverait à donner en quelque sorte des garanties d'être bel et bien... indépendante des grands intérêts idéologiques et économiques en jeu. Qu'est-ce qui lui permettrait d'atteindre ce niveau-là de juge impartial de tiers ? Le fait justement d'avoir été mis en place dans le dialogue, dans la discussion. C'est-à-dire que on peut estimer que un certain nombre de consensus internationaux, inter-associations, inter-ONG, un certain nombre de consensus peuvent amener la création de ce tiers plus objectif, plus indépendant. Et alors, cette indépendance-là pourrait, si on lui... Évidemment, c'est toujours pareil, la justice, elle n'est pas accompagnée d'un glaive, elle ne sert pas à grand-chose. Mais on peut imaginer qu'un tel tiers... pourvu d'un certain nombre de moyens, pourrait augmenter l'efficacité de notre action en faveur de la protection de l'environnement.
Et ça supposerait quand même un appui solide sur le scientifique. Et ouais. Là, il ne s'agirait pas de conviction, il s'agirait de données, d'analyse de données et des conclusions qui soient tirées sur des bases quand même solides.
L'expertise scientifique est indispensable dans la mesure où il s'agit d'attribuer aux choses, on va reprendre cette idée, une montagne traversée ou non par un tunnel, une rivière empêchée ou non par un barrage, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On va attribuer une valeur. Pour attribuer une valeur, on a intérêt à ce que cette valeur, elle soit autant que possible conforme à ce que ces êtres, la rivière, la montagne, sont véritablement en eux-mêmes d'une part et à l'intérieur de notre environnement d'autre part. C'est-à-dire que il faut pouvoir objectiver la valeur morale et politique qu'on va donner à cet être de la nature. Et le seul moyen de l'objectiver, c'est de le déterminer, de le décrire correctement d'un point de vue scientifique. C'était Jacob Bro, héroïne, pardon.
RCF, Olivier Horry.
Voilà, nous parlions avec Odile dans cette conversation philosophique. Nous parlions de la constitution, l'élaboration d'un droit naturel et nous en étions arrivés à des recherches autour de ce qui pourrait donner à cette protection de l'environnement, par exemple, un tour légal.
Oui, et donc on abordait la question de la création d'une cour, parce que les États individuellement, enfin les décisions d'un État peuvent être très difficiles à accorder aux autres, en plus parfois contradictoires. Donc l'idéal, ce serait quand même une cour internationale de justice, qui gère et qui étudie tous les problèmes qui liés à l'environnement. Ça suppose de pouvoir s'appuyer sur les scientifiques, ça suppose une collaboration scientifique très élaborée et une communication aussi très intense.
Oui, alors d'un point de vue objectif, il y a nécessité, on l'a dit, d'un support scientifique sur le modèle un petit peu du GIEC, par exemple, pour le réchauffement climatique. Donc ça paraît le seul moyen de donner un fond objectif à l'élaboration de droits et de valeurs qui restent éminemment subjectives. Hein, l'affaire de conscience humaine, évidemment, toujours un peu relative. Hein. Donc il y a ce front scientifique. D'un point de vue politique, on voit bien que la constitution, par exemple, hein, d'une telle cour internationale d'écologie, d'un point de vue politique, le plus sûr moyen de lui donner une légitimité, c'est qu'elle soit fondée sur des régimes démocratiques. C'est-à-dire la plus grande légitimité de la loi, elle est atteinte quand elle est promue et appliquée dans une démocratie où c'est la majorité, la volonté générale qui s'exprime. Alors évidemment, tout ça peut paraître extrêmement idéaliste, hein, mais en face d'une évaluation scientifique objective, le cadre légal le plus légitime pour une telle instance juridique apparaît quand même être le consensus démocratique, quoi.
Oui, c'est le plus pertinent, certainement, probablement le plus difficile à atteindre, mais ouais, le plus sécurisant, parce qu'on voit par exemple pour les problèmes d'usage de l'eau. Un cours d'eau, il va que dans un sens, hein, il n'y aura rien à faire à ça. On sera en fait constamment affronté à la réalité des choses. Il s'agit pas de concepts dans la nature, c'est des réalités incontournables. Donc ça peut obliger à des consensus d'un côté et de l'autre, mais la difficulté, ce sera toujours de garder une certaine équité. Et au moins dans tous les besoins fondamentaux, le premier, c'est l'accès à l'eau et à la nourriture. Et là, on est très très loin de l'équité en ce moment. Donc, on peut certainement faire pire. Mais c'est quelque chose qui peut mettre très très longtemps à se mettre en place en même temps.
Oui, alors surtout que là, on est en train de discuter d'un saut supplémentaire, soit la question par exemple de la ressource en eau. Mettons un fleuve qui traverse plusieurs pays et qui les traverse dans un sens qui est son sens à lui et qui ne peut pas être modifié. Alors évidemment qu'il doit y avoir des accords politiques entre les différents pays traversés par ce fleuve afin que l'eau soit équitablement répartie aux différents habitants des différents pays qui se trouvent sur le cours de ce fleuve. Mais ce dont nous parlons nous aussi ici, c'est d'un respect du fleuve en lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dispenserait de le détourner, de le barrer et surtout de le polluer, pour des questions d'intérêt national, un peu aussi pour des questions d'intérêt international, et puis au-delà, pour des questions d'intérêt humain, et au-delà encore, comme si nous défendions l'intérêt du fleuve lui-même. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire dans quelle disposition d'esprit faut-il entrer pour, au-delà de toutes les dispositions légales et diplomatiques international habituel, on puisse commencer à parler d'un droit du fleuve. C'est un peu ça la question.
Parce que on aborde la question éthique, en fait. Après, c'est plus on protège la nature parce que de toute façon, on peut pas faire ça. C'est on protège la nature dans son ensemble, toutes ses composantes, parce que c'est la nature, parce qu'elle nous appartient pas. Et parce que c'est une légitimité qu'elle a de fait.
C'est ça. Donc on voit qu'on est comme on est comme au pied d'une échelle, hein, le long de laquelle on va, par exemple, on peut continuer à prendre cet exemple du fleuve. On est au pied d'une échelle qui est l'échelle de valorisation du fleuve. Alors dans un premier temps, on va le valoriser parce que on en a un usage immédiat. C'est là que nous puisons l'eau pour la boire, mais aussi pour alimenter des centrales, des turbines, enfin, etc. Bon. Et puis ensuite, on accède à du politique local. On accède à le fleuve a une valeur, mais pour une politique internationale. C'est-à-dire, on va s'accorder avec nos voisins pour équitablement partager les usages de ce fleuve. Puis au-delà, on va se poser la question de l'intérêt de l'humanité dans sa totalité. Quel intérêt a l'humanité dans sa totalité quant au cours du Nil, par exemple ? Et c'est vrai que en un temps de globalisation comme le nôtre, de mondialisation comme le nôtre, c'est l'humanité tout entière qui a un intérêt à la préservation d'un certain nombre d'éléments naturels comme les fleuves, les montagnes, les mers, etc. Et puis, donc toujours en gravissant les échelons, on arrive à ce moment éthique hein, que vous évoquez. C'est-à-dire, à un moment donné, on voudrait, dans cette valorisation, valoriser éthiquement le fleuve lui-même, la mer elle-même, l'océan. Et pour ça, effectivement, il faut se mettre dans une disposition intellectuelle, morale, qui dépasse même les positions intellectuelles et morales habituelles. Je crois qu'on rentre dans une phase presque spirituelle. C'est-à-dire, comme vous le disiez à l'instant, il faut à un moment donné se placer devant ces êtres de la nature et se dire que finalement, ils n'ont ni plus ni moins, et nous n'avons ni plus ni moins de droit à l'existence qu'eux. Et il faut donc les respecter en eux-mêmes, indépendamment même de toute espèce d'intérêt que nous pouvons avoir à leur exploitation. Et là, on arrive à pratiquement une mystique de la nature et une posture spirituelle assez inédite. C'était Brad Meldow.
RCF, Olivier Horry.
Voilà, nous sommes avec Odile Autré dans notre conversation philosophique ce mois-ci autour du droit des êtres de la nature. Et progressivement, nous en sommes arrivés à dessiner les contours pratiquement d'une mystique de la nature pour accorder à tous les êtres naturels qui nous environnent et dont nous faisons partie. Leur accorder un droit inaliénable, d'une certaine manière.
Et voilà, et donc on a beaucoup de travail à faire, là. Mais en tant qu'être conscient, justement, jusqu'à présent, on s'est plutôt quand même comporté comme des consommateurs de la nature, que ce soit sous forme d'alimentation, de loisirs ou de tout ce qu'on veut. En tous les cas, on a plutôt consommé la nature que respecté. Et on ne s'est pas tellement rendu compte que notre statut nous donnait quand même une obligation, une responsabilité. Et on ne pourra pas s'en soustraire, parce que de toute façon, c'est pour nous que ça va le plus mal se terminer.
Ouais.
Donc, de passer d'un consommateur à quelqu'un de responsable, ça demande un gros travail.
J'imagine que ça demande ce que les Grecs ont appelé la métanoïa, c'est-à-dire ça. Métanoïa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser au-delà, en fait. C'est-à-dire ça nécessite de faire un pas dans une direction de plus grande prise de conscience, de plus haute spiritualité, mais radicalement, parce que effectivement nous sommes consommateurs de la nature, et même quand nous produisons à l'intérieur de la nature en nous servant des forces de la nature, souvent nous produisons mal, nous produisons en salissant, nous produisons en voilà. Donc effectivement, avoir des conduites responsables, que ce soit dans la consommation ou dans la production, c'est le chemin que nous venons d'ouvrir. Et on voit bien qu'il s'agit de penser plus loin, il s'agit d'une véritable conversion, dans la mesure où il faut substituer aux logiques d'exploitation, de consommation et de production un peu délirante, quoi. Il faut substituer à ces logiques-là des logiques pratiquement de contemplation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de regarder notre environnement et de nous regarder nous-mêmes comme étant là gratuitement, innocemment, et respecter ça. Et peut-être que un élément qui nous permettrait un peu de régulation, ça serait la considération des générations futures. C'est-à-dire que quand on discute autour de soi, on ne trouve que des gens qui veulent le mieux et le meilleur pour leurs enfants. Hein, et je crois qu'on est démocratiquement tous d'accord pour dire que nous voudrions tellement que nos enfants vivent mieux que nous n'avons vécu. Et pourtant, dans notre rapport à la nature, nous faisons presque tous les jours la preuve du contraire. C'est-à-dire que nous faisons presque tous les jours la preuve que nous sommes tout à fait capables de donner à nos enfants un environnement moins accueillant que celui que nous avons reçu de nos parents.
Oui, et sans s'excuser en plus. Oui. Mais je pense qu'on a perdu complètement Enfin, on n'a pas perdu complètement. Mais on a du mal à voir la nature autrement qu'à travers nos propres filtres. Ouais. Et on a perdu une espèce d'aspect concret de la nature. On ne sait plus interpréter globalement. Hein, y a toujours des gens dans le milieu rural surtout, mais pas seulement. On ne sait plus interpréter. Donc on ne se rend pas suffisamment compte. En fait, on ne le ressent pas. Théoriquement, l'humain, c'est quand même quelqu'un qui... C'est un être de ressenti, de réflexion, mais de ressenti. Ouais. Et ce ressenti, on l'a un petit peu égaré ou un peu étouffé. Et donc on a... Plus cette notion arrive pas à devenir urgente.
Mais je crois que le filtre dont vous parlez, c'est tout simplement l'ego. Et je pense pas que ce soit véritablement une nouveauté. C'est-à-dire qu'effectivement, la métanoïa, la conversion dont je parlais, elle concerne l'ego lui-même. C'est-à-dire qu'elle concerne quoi? Elle concerne le passage du filtre de l'ego à un autre filtre. Il faut se déporter de soi-même pour regarder effectivement la nature comme elle est. Ce que vous disiez, hein, quelque chose qu'on a effectivement peut-être un peu perdu avec nos écrans, avec nos modes de médiation habituels. On a un peu perdu l'art de se déporter de nos filtres pour essayer de revenir à la nature sans filtre. Voilà, mais je crois que le temps est venu de nous quitter. Il me reste donc à remercier Odile Autré pour cette très agréable conversation. Nous avons entendu Héroïne de Jacob Brault de l'album Stream ECM 2016 et For No One de Brad Meldo de l'album Your Mother Should Know. Ce sont les Beatles que vous avez reconnus malgré les discordances. C'est l'album donc Your Mother Should Know chez Nonesuch Records 2023. Merci à Landy Unger qui a programmé cette musique et merci à Vincent Guégon qui réalise tout ça. Ciao, ciao. Wait a minute.